Les animateurs de cette balado-diffusion n'ont aucun conflit d'intérêt à déclarer en lien avec l'épisode qui suit. Bonne écoute!
Bienvenue au Pharmascope.
Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du Pharmascope. Je m'appelle Nicolas Dugré, je suis pharmacien au CIUS du Nord de l'île de Montréal. Non, c'est pas vrai, ça n'existe plus le CIUS du Nord de l'île de Montréal. J'ai vu ça dans les nouvelles cette semaine, là. Je ne sais plus comment ça s'appelle.
C'est Santé Québec.
Nord de l'île de Montréal.
Nord de l'île de Montréal.
Universitaire.
Ah oui, c'est ça, il y a universitaire à la fin. Pharmacien à Santé Québec, Nord de l'île de Montréal, universitaire.
Bonjour tout le monde, moi c'est Olivier Massé, je suis pharmacien dans la même institution.
Salut, moi c'est Amélie Gravel, je suis médecin de famille, même chose là, dans le fait, une vraie grosse patente qui est la même chose. Mais qui
comment ça va?
Ça va bien.
Êtes-vous content de travailler dans un établissement qui porte un nouveau nom?
Je vais passer mon tour.
Ouais. As-tu d'autres questions?
Ben oui, j'ai d'autres questions. On a un invité avec nous aujourd'hui. Bonjour, Mme Scar. Comment ça va?
Ça va bien, vous autres?
Ça va. Fait que toi, ton établissement de santé, ça a changé?
Je ne sais plus, là, je n'étais pas prête à cette question-là. Là,
Fait que où tu travailles, Mme Scar?
Ben, à l'hôpital de Montréal pour enfants, là, pour le Centre universitaire de santé McGill.
Ça n'a pas l'air conforme.
Santé Québec.
Alors, de retour parmi nous, Catherine, pour un deuxième épisode consécutif. On se rappelle qu'on a abordé la dernière fois la dermatite atopique chez les jeunes. Hein, question d'être en thématique avec ta pratique.
Voilà.
On avait abordé quand même quelques affaires. Bon, il nous en restait encore pas mal. C'est pour ça qu'on t'a demandé de revenir. On avait pris le temps de jaser quand même de la maladie, les généralités sur qu'est-ce que c'est la dermatite atopique, comment ça se présente et compagnie. On avait commencé à aborder aussi quand même des aspects de prise en charge. On a parlé de bains, d'études randomisées contrôlées de bains. Je trouve ça quand même très, très hot.
C'était ma partie préférée de l'épisode.
Ben, je comprends. En même temps, bon, les résultats étaient un peu décevants. On se rappelle que finalement, il n'y a pas de science bien claire qui justifie les différents camps de counseling de prendre moins de bains, moins long, moins chaud, moins ci, moins ça. Bon, on n'a pas de la science qui vient non plus contredire toutes ces affaires-là. Fait qu'après ça, je pense que notre conclusion, c'est que les gens peuvent s'adapter un petit peu à leur confort et à leurs préférences, mais visiblement, il y a pas des. On s'attend pas à des miracles juste avec nos bains ou nos douches. On avait abordé sinon les corticostéroïdes topiques. Moi, j'ai retenu que ça marchait bien, premièrement.
Oui.
On avait des taux de succès, ma foi, pas piqués des verres avec des nombres nécessaires pour traiter. Là. Je ne me souviens plus, on se rendait à combien, mais il me semble qu'on descendait assez bas, là, genre dans le 4-5.
Il me semble que c'est dans ces ordres-là, oui.
Fait que pas mauvais. On avait parlé sinon de crème hydratante. J'en ai retenu que n'importe quelle crème hydratante, si c'est celle-là que tu apprécies, qui fit avec ton portefeuille, puis que tu vas appliquer, c'est celle-là la
meilleure.
Bonne. C'est
voilà.
Ça, exactement.
On a surtout retenu que les onguents puis les pommades là, qui s'appliquent pas pantoute, ça sert à rien de plus qu'une bonne vieille lotion.
Ouais, puis ça aussi, on avait quand même des études randomisées contrôlées, ma foi, d'envergure, assez bien faites, puis tout ça, qui comparaient différentes affaires de ce genre-là. Je me souviens de l'étude abeille, notamment, là. Puis il y avait de quoi, là, il donnait aux enfants un jouet en forme d'abeille ou je sais plus trop.
C'était l'étude B.
Ouais. Fait que, bref, ça a été géré. Pour les corticostéroïdes topiques, sinon, on avait parlé de la façon de les utiliser, autant en termes de quantité, de faire attention à pas trop se limiter à cause d'une possible corticophobie, d'utiliser une quantité appropriée. On avait parlé de fréquence. J'en ai retenu que, une utilisation quotidienne ou bicotidienne fait probablement la même affaire dans le soulagement des symptômes. Puis j'en ai retenu aussi qu'une utilisation intermittente, proactive, lorsqu'on est en... Je me souviens plus, tu avais des termes pour ça, là, mais lorsqu'on est en contrôle de la maladie.
Oui, quand on est en contrôle de la maladie, il faut garder le contrôle. On est en thérapie proactive.
Voilà, fait qu'en thérapie proactive, l'utilisation intermittente de corticostéroïdes topiques, soit, je pense que tu avais mentionné dans les études, il y avait, par exemple, deux fois par semaine ou les week-ends.
En fait, c'était deux fois par semaine, mais les lignes directrices disaient le week-end, c'est juste plus facile.
Tu vas me dire l'un puis l'autre, c'est deux fois par semaine, mais...
Oui, exactement. Mais on n'est pas obligé de les répartir séparer, également dans la semaine, voilà.
Exact. Tu sais pas, avais-tu d'autres choses qui nous avaient marqué durant cet épisode-là autrement?
Non, je pense que c'est un bon résumé, là, mais le message clé sur la prise intermittente, là, je pense que c'est quand même un message à retenir. Là.
Parfait. Alors, on serait rendu à jaser d'inhibiteurs de la calcineurine topique, Catherine.
Oui, fait que autre modalité de traitement topique, évidemment. On se souvient aussi que j'avais fait un petit résumé de mécanismes d'action là au plus grand bonheur de Nicolas. Fait que j'ai fait la même chose. Fait que inhibiteur de la calcinurine topique, pardon. Fait que c'est des bloqueurs sélectifs de l'activation des lymphocytes T. Fait qu'en inhibant la calcinurine, là, vous vous retrouvez à inhiber la source de la cascade qui implique les cytokines inflammatoires. Bref, tout ça pour dire que ça bloque des cytokines inflammatoires qui font en sorte qu'ils sont plus sélectifs que les corticostéroïdes topiques. C'est un peu ça, là, le grand message. Et donc, parce qu'ils ne jouent pas ni sur les fibroblastes, ni sur la synthèse du collagène, ils n'ont pas de risque d'atrophie cutanée ou des autres effets secondaires cutanés qu'on peut retrouver avec les corticostéroïdes topiques. Mais ils bloquent quand même la dégranulation des mastocytes et la libération des médiateurs inflammatoires qui leur donnent un effet antiprurigineux. Quand même. Ouf!
Tu
Voilà.
flic.
Qu'est-ce que les lignes directrices disent sur l'utilisation des inhibiteurs de la calcinurine topique? Ils disent qu'ils sont efficaces autant pour le traitement de l'induction que pour la thérapie proactive. Fait que, oh, on a un deuxième outil dans notre petite boîte. Les lignes directrices pédiatriques ne spécifient pas d'âge pour utiliser les ICT, mais dans leur texte, ils spécifient quand même là, que la FDA les a approuvés chez les 2 ans et plus, mais ils disent qu'on a quand même beaucoup de données d'utilisation chez les moins de 2 ans dans des études cliniques non randomisées. Pas qui ont l'air de dire peu importe l'âge, nous on est confortable avec ça. Les lignes directrices conjointes disent pas mal la même chose. Fait que c'est une première ligne de traitement aussi à ajouter à des émollients, là, quand les émollients seuls ne sont pas suffisants. Ils les mettent sur la même piédestale que les corticostéroïdes topiques, là. Il n'y a pas, par exemple, essayé les corticostéroïdes topiques en premier et ensuite aller avec les ICT. C'est un choix ou un autre, dépendamment de la préférence du patient. Ils disent que ça peut être instauré peu importe le niveau de la sévérité de la dermatite atopique. C'est aussi une première ligne de traitement pour la thérapie proactive, encore une fois sur le même piédestal que les corticostéroïdes topiques. Mais eux, par contre, disent que c'est chez les 3 mois et plus seulement, sûrement basé sur le fait que les études sont sous essais randomisés contrôlés, les plus jeunes patients inclus avaient 3 mois ou plus. Fait que ça vient de là. Fait que spécifiquement, si on va dans les agents, fait qu'on a 2 molécules là, disponibles pour nos inhibiteurs de la calcinurine topique. On a le pimecrolimus et le tacrolimus. Et si on commence avec le pimecrolimus, pardon, fait que le Elidel, disponible en onguent, une seule concentration disponible, fait que du 1%. Fait que je vous présente les évidences que j'ai été divisées autant, mettons, dans un premier temps pour le traitement d'un épisode aigu, puis après ça, on pourra parler pour le traitement de la thérapie proactive. Pour le traitement d'un épisode aigu, fait qu'on peut soit le comparer au placebo ou le comparer à des corticostéroïdes topiques, mais de puissance variée, là. Fait que comparé au placebo, on a une méta-analyse publiée en 2023 qui regardait juste ça. Fait que l'efficacité du pimécrolimus versus un véhicule inactif, là, au niveau de la sévérité de la dermatite atopique, sur autant l'étendue des lésions, le prurit associé, bon, tous les autres symptômes de la dermatite atopique. Puis la conclusion, c'est que le pimécrolimus est plus efficace que le placebo pour toutes les issues qui étaient mesurées. À 6 semaines, on avait 44% des patients dans le groupe pimécrolimus qui avaient une amélioration versus 22% dans le groupe placebo pour un NNT de 5. Le profil d'inocuité était assez favorable, là. Il y avait certaines mentions là, d'un risque de fièvre, la fameuse nasopharyngite qu'on voit dans toutes les études pédiatriques, je pense.
Oh mon Dieu, attends, ça c'est toutes les études d'adultes aussi.
Ah, adulte
Pour
aussi,
vrai,
vous
pour
avez ce
moi,
problème-là?
c'est à ce jour encore un mystère comme non résolu. Si quelqu'un résout ça, je veux dire,
Appelez-nous.
appelez-nous là. Dans toutes les études, même les inhibiteurs de la DPP-4, tu sais, une affaire qui fait rien, nasopharyngite. Pour vrai, il y a quelque chose là,
Quelque chose.
je catch pas. Puis juste pour que les gens comprennent bien, c'est que ça sort typiquement plus fréquent avec le médicament, peu importe le domaine, des antidiabétiques, des antidépresseurs, des anti-n'importe quoi,
Des
que le
vaccins, je
placebo.
pense, oui. Fait que voilà. Bref, profil d'inocuité sorti très sécuritaire là, dans les essais randomisés contrôlés. Ensuite, quand on le comparait à des corticostéroïdes topiques, soit modérés ou élevés, fait qu'on avait 3 essais randomisés contrôlés là, faits en pédiatrie. Un qui a démontré aucune différence entre le pimécrolimus et le corticostéroïde topique, mais 2 qui ont démontré que le corticostéroïde topique était supérieur au pimécrolimus. Fait qu'on avait, mettons, là, un 40 à 50 % d'amélioration dans le groupe pimécrolimus versus autour de 70 à 90 % dans le groupe cortico pour un NNT entre 3 et 4.
Fait que là, il y a quand même quelque chose d'intéressant à ce que tu me dis, là. Fait que dans des études randomisées contrôlées, premièrement, il faut lever notre chapeau parce que les corticostéroïdes topiques ont été comparés dans des études randomisées contrôlées directement à des inhibiteurs de calcinurine topique. J'ai levé notre chapeau, puis vous allez voir que après ça, là, on va parler d'autres affaires, puis qu'ils ne se sont pas forcés de ce côté-là. Mais si je comprends bien, bref, quand on méta-analyse ces données-là, il y a une différence statistiquement significative et très cliniquement significative en faveur des corticostéroïdes topiques,
Oui,
quand
exactement.
même
Mais
ultra
de
important.
classe de puissance modérée à élevée.
Mais on parle quand même d'une différence importante, là, je veux dire, un nombre nécessaire à traiter de 3 à 4 en faveur des corticostéroïdes topiques.
Oui.
On dirait que moi, les inhibiteurs de la calcineurine topique, l'une des raisons pour lesquelles ils nous viennent en tête chez certains patients, c'est certains patients chez qui justement on se dit ah, ben là, on est rendu à des corticos, par exemple, puissants, ou ça fait beaucoup de corticos, mais visiblement, on s'attendrait pas à une réponse supérieure avec ces produits-là, là.
Oui, mais vous avez
Ben.
que la réponse avec les agents n'est pas le même, là, mais retenez que c'est pour le pimicrolimus, c'est à quelque part, c'est moins efficace qu'un corticotopique de classe modérée à élevée, la puissance élevée. Fait que c'était pas mal les évidences là, de meilleure qualité qu'on a pour le traitement d'un épisode aigu. Ensuite, si on regarde en thérapie proactive, fait qu'on se souvenait qu'autant les lignes directrices pédiatriques que les lignes directrices conjointes, là, le recommandaient en thérapie proactive. T'sais, ils mettent ça dans la même classe, hein, les ICT. Ils font pas de différence entre le pimicrolimus ou le tacrolimus. Mais sachez qu'il n'y a aucun essai randomisé contrôlé qui a évalué le pimicrolimus en entretien qui a été publié à ce jour. Le problème, parce que là, je lisais les lignes directrices conjointes, puis là, ils donnaient comme des odds ratio de 0,5 quand ils comparaient le pimicrolimus versus les soins standards. Fait que là, je me suis demandé où est-ce qu'ils ont sorti ces données-là. Puis finalement, en cherchant un peu, la méta-analyse réseau avait décidé de pooler les données sur les études sur le pimicrolimus en intervention précoce. Fait que dans le fond, intervention précoce, c'est dès que tu as un début de lésion, là, un début de maladie, tu le mets tout de suite, tout de suite, tout de suite, qui n'est pas la définition pure du tout qu'on a là, de la thérapie proactive. Fait qu'eux, ils ont décidé de prendre ces données-là puis de les pooler, puis d'extrapoler aussi les données qu'on a avec le tacrolimus. On y reviendra. Fait qu'ils ont fait comme une recommandation là, de classe pour la thérapie proactive. Bon, je pense pas que je leur dirais de faire 8 ans de prison pour avoir fait ces conclusions-là, mais je pense que c'est quand même relativement important de savoir que ça n'a jamais été étudié en essai randomisé contrôlé, le pimicrolimus spécifiquement. Fait que ça fait le tour pour le pimicrolimus. Deuxième molécule qu'on a dans la même classe des ICT, c'est le tacrolimus, aussi disponible en onguent, mais lui sous deux concentrations différentes. Fait qu'on a le 0,03% et le 0,1%. Souvent, les gens disent que c'est comme la concentration pédiatrique versus la concentration adulte, mais vous verrez que le 0,1% est aussi étudié en pédiatrie, mais c'est vrai que c'est le 0,03% qui est le plus souvent étudié, mais on va aller dans le détail. Fait qu'encore une fois, je commence par vous présenter les évidences pour le traitement d'un épisode aigu. Fait que ça, on n'a pas de méta-analyse sur le sujet, là, mais il y a une revue Cochrane publiée en 2015 sur l'utilisation du tacrolimus topique en dermatite atopique, fait qu'il incluait les deux concentrations. Quand on compare le tacrolimus soit au placebo ou des corticostéroïdes de faible puissance, ils ont mis comme dans la même catégorie de comparaison, là. Le tacrolimus 0,1% est supérieur, dans le fond, soit au placebo ou soit à un corticostéroïde topique de faible puissance. Puis le tacrolimus 0,03% a aussi une efficacité supérieure. Fait que peu importe la concentration de tacrolimus que vous utilisez, c'est considéré supérieur soit au placebo ou soit au corticostéroïde topique de faible puissance. Ensuite, si on les compare aux corticostéroïdes topiques modérés ou de haute puissance, fait que la catégorie où est-ce que le pimicrolimus a échoué finalement, si on regarde le tacrolimus 0,1%, fait que là, les données sont un peu moins évidentes, là. Fait qu'on a deux essais randomisés contrôlés qui prouvaient une amélioration de la dermatite atopique chez à peu près le 75 à 90 % des patients sous tacro. Mais il y avait quatre essais randomisés contrôlés là, qui regroupaient un peu moins de patients, là, fait que 500 patients versus 1 500 pour les autres, mettons, qui montraient aucune différence entre le tacrolimus à haute concentration puis les corticostéroïdes topiques modérés à puissance haute. Fait que la conclusion de la revue Cochrane, c'est qu'ils ont une efficacité similaire sûrement à cette classe de corticostéroïdes topiques-là. Pour ce qui est du tacrolimus à 0,03%, fait que les essais randomisés contrôlés montrent une absence de différence d'efficacité quand les études utilisent le PGA comme issue primaire, mais ça serait peut-être supérieur quand on utilise le score EASI pour mesurer l'efficacité. Fait que, bref, eux aussi, ils concluaient que l'efficacité était relativement similaire à ce niveau-là.
Fait que là, à date, j'en comprends que le pimicrolimus, comparativement au corticostéroïde de puissance modérée ou forte,
Oui.
ça n'a pas l'air super gagnant. Par contre, le tacro, autant au final entre 0,03 puis 0,1, on a l'air dans la même zone de grandeur,
Exactement.
là. OK.
Sans mettre nécessairement les détails, là, il y avait quand même des données sur comparer les deux produits là, de tacrolimus. Fait que est-ce que le 0,1% est supérieur au 0,03%? Puis le 0,1% serait supérieur avec des taux d'effets secondaires similaires.
Okay, mais la vraie question, ça semble plus être est-ce que le tacro est supérieur au pimicrolimus?
Fait que oui, on a des données de comparaison directe. On a même une analyse qui regroupait trois essais randomisés contrôlés. Le groupe tacrolimus avait 35 % de répondants versus 19 % dans le groupe pimicrolimus pour des durées de traitement là, qui variaient entre 2 à 6 semaines pour aider NNT à 7.
OK, fait que tout ça, de un, pour vrai, impressionnant qu'il y ait ces études randomisées contrôlées-là. Tu sais, comme on voit ça à peu près jamais, là, je veux dire, des médicaments actifs comparatifs, en tout cas, c'est très fort. Puis deux, ça semble tout se tenir. Fait qu'on en comprend que visiblement, autant des études de comparaison contre les corticostéroïdes topiques que même visiblement des études de comparaison directe entre eux, le tacro semble être plus efficace que le pimicrolimus, là. Intéressant.
Ben, ça, c'est un message important parce que j'avais pas du tout cette notion que le tacrolimus serait supérieur à son petit cousin.
On parle quand même d'une qualité d'évidence qui semble pas mauvaise, là.
Ça, c'était pour les traitements d'épisodes aigus. Maintenant, pour la thérapie proactive, on a des essais randomisés contrôlés qui étudient le tacrolimus en thérapie proactive chez les enfants. C'est le tacrolimus 0,03 % qui est étudié chez les petites personnes, comparé au véhicule. Fait que 2 à 3 fois par semaine, là, il y a une étude qui faisait 2 fois par semaine, une autre étude 3 fois par semaine. Fait que le tacrolimus était aussi supérieur au véhicule pour un odds ratio de 0,44 versus les soins standards ou le placebo. Un autre issue qui était intéressant, je trouvais, puis qui parle peut-être plus à nos patients, c'était le nombre de jours avant le premier épisode aigu. Fait qu'il y avait 4 essais randomisés contrôlés, là, ici, qui regroupaient autant les adultes que des enfants, là, mais c'était pas mal les mêmes ordres de grandeur dans les deux populations. Mais dans le groupe qui utilisait du tacrolimus, autant le 0,1 que le 0,03 %, ça prenait entre 142 et 173 jours avant d'avoir une première exacerbation, versus entre 15 et 43 jours dans le groupe placebo. Fait que c'est quand même une grosse différence, là, cliniquement significative. Fait que, tu sais, pour moi, je pense que ça parle plus à nos patients. Si on dit, ah, si tu prends la thérapie proactive, ça va prendre, je sais pas, là, on est dans l'ordre de, tu sais, 4-5 mois avant que tu aies un épisode aigu, versus si tu mets juste des émollients ou rien, ben, ça va prendre entre, tu sais, 2 et 6 semaines.
Ça me semble vendeur, en effet.
Fait que ça fait le tour de leurs données d'efficacité. Après ça, il y a toujours la question d'innocuité, des inhibiteurs de la calcineurine topique, spécifiquement en pédiatrie. Fait qu'encore une fois, on se souviendra que je suis venue parler du sujet sur vos plateaux d'enregistrement il y a quelques années.
Le petit studio réservé pour les invités premium.
Ah, voilà. OK.
On le loue juste quand tu viens, hein, ce studio-là.
Ah, ben, je me sens privilégiée. Fait que l'inquiétude était principalement qu'il y aurait une augmentation du risque de cancer avec l'utilisation des inhibiteurs de la calcineurine topique. Ça provenait principalement d'études animales qui étaient exposées à des doses supraphysiologiques d'inhibiteurs de la calcineurine, mais systémiques, ou d'extrapolation de receveurs d'organes solides aussi exposés à des inhibiteurs de la calcineurine systémique, ou de données qui provenaient de systèmes de déclaration le volontaire qui n'étaient pas contrôlés. Puis tout ça a amené à la FDA, là, au début des années 2000, à faire un avertissement en boîte, là, ma traduction libre de box warning, sur le fait que les ICT, fait que les topiques, pourraient augmenter le risque de cancer, principalement le lymphome, si je me souviens bien. Aujourd'hui, on a des données différentes, je dirais, là, fait qu'on a des revues systématiques qui proviennent d'essais randomisés contrôlés et certaines données observationnelles qui concluent qu'il n'y a pas vraiment de risque augmenté de cancer chez les utilisateurs de ces produits-là topiques quand on les compare à des non-utilisateurs, puis autant quand on les étudie, là, ou observe chez les nourrissons, chez les enfants, que chez les adultes. Fait que peu importe la population. Fait que ça aussi, je pense que c'est un message clé à retenir, là. C'est pas parce que les enfants sont plus jeunes qu'ils sont plus à risque de développer des lymphomes en utilisant du tacrolimus topique. Et donc, on conclut qu'il n'y a aucun lien de causalité entre le risque de cancer et les ICT. Puis d'ailleurs, Santé Canada a retiré son avertissement en boîte en 2021.
Puis ça, honnêtement, il y a quelque chose de rassurant là-dedans parce que c'est plus facile, je pense, rajouter un avertissement en boîte que retirer un avertissement en boîte. Fait que j'ai l'impression que c'est quand même très, très rassurant.
Absolument. Fait que, si on fait une espèce de résumé, justement, là, les inhibiteurs de la calcinérine topique en pratique, fait que lequel on choisit, hein, c'est déjà une question là, qu'on s'est un peu implicitement posée entre nous. Fait que, encore une fois, là, les lignes directrices vont justement les classer par rapport aux corticostéroïdes topiques selon les données d'efficacité comparative qu'on a. Fait qu'eux, ils disent que l'efficacité du pimécrolimus se retrouverait à quelque part entre celle d'un corticostéroïde topique de classe 5 puis une classe 6-7. Fait que c'est à peine un peu plus efficace que, mettons, une hydrocortisone 1%, mais moins efficace qu'une classe 5. Fait qu'on est vraiment dans le, tu sais, les faibles à très faibles. Efficacité similaire à ça. Le tacrolimus 0,03% aurait une efficacité similaire au corticostéroïde topique de classe 5. Là, j'ai pas d'exemple à vous donner, là. Je les connais pas par cœur. Puis l'efficacité du tacrolimus 0,1% serait similaire à celle d'un corticostéroïde topique de classe 4.
Intéressant.
Est-ce qu'on peut les utiliser en thérapie proactive? Fait que oui, hein, je vous l'ai dit. Personnellement, j'aurais une préférence pour le tacrolimus, puisque l'autre n'est pas supporté nécessairement par la science. Mais un patient qui, pour une raison XYZ, utiliserait du pimécrolimus pour ses épisodes aigus pourrait très bien utiliser le même produit en thérapie proactive. Là. Je pense que ça se tient, ça l'évite de la polypharmacie. Une autre question qu'on a en pratique aussi, c'est selon la localisation des lésions. Je ne sais pas si vous voyez ça vous aussi, là, mais des fois, on a l'impression que comme, oh, on va mettre un corticostéroïde topique sur des lésions sur le corps, puis on va garder les ICT pour les endroits plus sensibles. Fait que c'est
Absolument.
souvent comme
Moi,
la
j'entends
peau des
ça.
yeux, le visage, les plis. Fait que sachez que c'est pas du tout associé à des données d'efficacité supérieure, là. Fait que, on n'a aucune preuve que les ICT fonctionnent mieux sur les zones sensibles. C'est vraiment juste le principe. Je pense qu'il y a une certaine logique, là, mais que dans le fond, on essaye d'éviter l'application de corticostéroïdes topiques sur ces endroits-là pour éviter une plus grande absorption systémique. Fait que même si la théorie fait du sens, je dirais juste faites attention encore une fois à la polythérapie, là. T'sais, il faut être sûr que le patient, t'sais, c'est quoi vraiment le bénéfice de prescrire deux produits différents pour les zones sensibles? Est-ce qu'on peut pas juste prescrire, si on est rendu là, un ICT, t'sais, pour toutes les zones? Après ça, il y a aussi une question de prix. On y reviendra, là, mais t'sais, il y a des pour et des contre aux deux stratégies, je vous dirais, mais c'est vraiment pas pour une question d'efficacité, là. Les ICT fonctionnent pas mieux sur les zones sensibles. C'est juste qu'on évite d'appliquer des corticostéroïdes topiques sur ces endroits-là pour une raison d'innocuité, encore une fois, théorique, je veux dire.
Mais tu sais, moi, j'en tiens aussi, là, c'est une question qu'on a souvent, puis je pense pas qu'il y a une bonne réponse, clairement, mais bon, un, le prix, vous connaissez, je suis économe, beaucoup plus cher, évidemment, les inhibiteurs de la calcinérine topique, fait que mettre ça sur tout le corps, juste pour simplifier la posologie, en tout cas, c'est quand même des montants significatifs, là, on va y venir dans quelques instants. Deux, je pense qu'il y a quelque chose, en tout cas, vous me direz si vous êtes d'accord, mais moi, j'en tiens beaucoup dans tout ça que, tu sais, les corticostéroïdes topiques en dermatite atopique, si le patient répond, ça veut dire qu'il se retrouve pas théoriquement à s'appliquer de la crème à tous les jours de sa vie pendant des années sans arrêt, là, on s'entend là. Théoriquement, si le patient répond, il va se retrouver à utiliser la crème de façon quotidienne pendant une courte période, puis par la suite, il va l'utiliser de façon intermittente. Puis c'est ça ce qui fait que on dirait que ça vient rajouter une couche supplémentaire pour moi de réassurance puis de sécurité là, par rapport à tous les effets cutanés là, qu'on craint tant avec les corticostéroïdes topiques. Fait que je pense que si c'est bien utilisé. Puis que si le patient répond, évidemment, là, le patient qui se met de la crème à tous les jours, puis ça change rien, fait qu'il continue juste de se beurrer de crème sans arrêt, parce que là, il y a d'autres choses à réfléchir. Mais autrement, on dirait que je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de poids à mettre sur tout le côté, là, région touchée, quantité de crème, pis ça.
Moi, je
Tout à
trouve que
fait d'accord.
ça fait bien du sens, mettons, si on exclut les corticos à puissance élevée, mais mettons à puissance modérée, moi, je verrais pas de problème non plus avec une prise intermittente, là.
Mais tu sais, je pense que c'est ça, il n'y a pas une bonne réponse parce qu'il faut considérer probablement ben, l'âge du patient, l'étendue des lésions. Évidemment, t'en mettre un bain à tous les jours parce que tu es touché par-dessus le corps, ça, c'est t'en mettre sur même une peau plus sensible, même t'sais, une petite région. En tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de morceaux à essayer de considérer, mais pas sûr que c'est là que ça devrait beaucoup jouer, autant que ben, est-ce que le traitement fonctionne? Est-ce que le patient est capable d'arrêter l'utilisation régulière de son traitement? La majorité du temps, ce qui devrait être le cas, pis ci, pis ça.
Je suis tout
Fait
à fait
que.
d'accord avec tout ce qui est dit.
Qu'est-ce qu'il nous reste à dire sur l'inhibiteur de la calcineurine topique? Peut-être, je sais pas, j'ai des patients des fois là qui rapportent, je sais même pas si c'est documenté honnêtement dans les essais randomisés contrôlés, l'inconfort lié à l'application, c'est quelque chose qui est documenté?
Oui, fait qu'il y a de la brûlure là, à l'application. Oui, c'est documenté. Puis on a même la documentation, là, pourquoi je me souviens pas de la nature des évidences, là, mais que ça diminuerait avec le temps. Fait que, je pense qu'on avait quelque chose comme de l'ordre de 50% des patients à la semaine 1 versus 17% après 2 mois versus 7% à 6 mois. Il y avait même des recommandations, puis aussi ça devient un peu, là, vous allez me dire, du fine-tuning, là, mais qui disait si ça brûle trop, il pourrait appliquer un corticostéroïde topique en premier là, pour les quelques jours, pour les quelques premiers jours, puis après ça, passer à l'ICT. Fait que faites qu'est-ce que vous voulez avec ça, là. Personnellement, je pense pas que c'est quelque chose que je vais utiliser dans ma boîte à outils, mais il y a des lignes directrices qui le mentionnent comme solution.
OK. Puis là, ben, il resterait le prix. C'est cher.
C'est ça. Fait que c'est toujours ça le problème, hein? Fait que ça coûte combien? Fait que, tu sais, je pense que le coût associé aux ICT joue vraiment un grand rôle là, dans le choix de sa place dans l'arsenal thérapeutique. Fait que sachez que, fait que autant au niveau du pimécrolimus que du tacrolimus, les deux concentrations, c'est des médicaments d'exception à la RAMQ. Puis il faut avoir eu un échec aux corticostéroïdes topiques pour être éligible au remboursement. Le prix est semblable entre les trois produits. Fait que pour des tubes de 100 grammes, on est autour de 130 à 140 $, là. Fait que le tacrolimus, la plus faible concentration, on est à 129 $, le tacrolimus 0.1 à 138, puis le pimicrolimus à 126 $ pour des tubes de 60 grammes.
Fait que quand même, j'ai beaucoup de choses à retenir. Je trouve des inhibiteurs de calcineurine topique, finalement. D'un bord comme de l'autre, on dirait, mais je retiens tacro. Je retiens les corticos ont encore leur place au-delà de leur côté économique. Intéressant. Intéressant. Alors, là, on va être rendu dans la section exotique et dispendieuse. Fait que je vous le dis tout de suite, on va y aller très rondement sur les autres produits utilisés dans le traitement de la dermatite atopique pour plusieurs raisons. Un, ben, le prix, là, en limite grandement l'utilisation. Deux, ben, le Pharmascope, ça se veut un podcast ciblé en première ligne. Je pense pas que la majorité de ces produits-là vont se rendre beaucoup en pratique de première ligne. Pas tant pour le côté, je sais pas, là, danger ou monitoring ou trucs particuliers liés aux médicaments en soi, parce qu'il y a certainement un paquet de médicaments là-dedans qu'on pourrait être très confortable d'essayer de prescrire en première ligne. J'ai l'impression qu'il y a, entre autres, en tout cas, je ne sais pas, Amé, ce que tu en penses, mais le côté diagnostic. Puis ce que je veux dire par là, c'est que, tu sais, mettons, là, des médicaments chers qui finissent par des MAB puis des MIB, on en utilise parfois en première ligne. Mettons, j'ai en tête là, les anti-CGRP en migraine ou le romosozumab collé à dor en prévention des fractures de fragilité, puis ces affaires-là. Mais c'est des conditions pour lesquelles on a très peu d'enjeux côté diagnostic. J'ai l'impression que les patients chez qui on est vraiment mal pris avec nos corticostéroïdes topiques et ou nos inhibiteurs de calcineurine topiques, ben on n'a probablement pas l'idée qu'il y ait une évaluation par quelqu'un d'autre.
Ouais, ben effectivement. Tu sais, je pense que si j'étais rendue là en clinique de me dire j'ai un échec à toutes les thérapies que j'ai tentées, ben peut-être que c'est parce que je traite pas la bonne affaire. Fait que oui, j'aimerais ça avoir peut-être un deuxième avis de diagnostic, là.
Fait que tout ça pour dire que c'est ça. C'est probablement des médicaments qu'on va se ramasser à voir en première ligne, qu'on voit déjà dans certains cas. Je suis pas sûr qu'on va devenir des gros utilisateurs ou des gros prescripteurs de tout ça. Fait qu'on va y aller quand même rondement parce qu'il y en a beaucoup, hein? Puis quand on dit beaucoup, vous allez voir, l'attacher votre truc avec la broche, là, c'est quelque chose, là.
Nouveaux noms, des nouvelles classes, des trucs qui coûtent très, 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 très cher.
Fait que, on part ça. Deux médicaments dont on a déjà parlé au Pharmascope, parce que c'est des médicaments qui commencent tranquillement à dater. C'est deux médicaments topiques de la classe des inhibiteurs de la phosphodiastérase 4. Donc, on a premièrement le crisaborole, commercialisé sous le nom de Leucrisa, qui est sorti quand même, là, il y a, le temps passe vite, là, 7-8 ans. Puis, plus récemment, on en a parlé dans un épisode il n'y a pas super longtemps, le roflumilast, commercialisé sous le nom de Zoryve. Très fort au Scrabble. Ici, on a un Z, un Y et un V dans un mot de 6 lettres. Quand même,
Payant, payant.
payant. Il aurait dû se rajouter un autre lettre poche, là. Je veux dire, il y avait de la place pour une lettre de plus, là. En tout cas.
Ouais, ou remplacer le dernier E par un Y de plus.
Ah, ou deux Y, là, je veux dire.
Rendu là.
Vas-y, là. Fait que, bref, deux médicaments de la même classe, deux médicaments qui ont été étudiés convenablement en dermatite atopique, dans chacune deux études randomisées, contrôlées, en bonne et due forme, qui donnaient dans l'un et l'autre des cas, là, un peu plus de 1 000 participants. Puis, ben, quand on regarde le succès, on a des taux de succès, là, si je regarde pour les études du crisaborole, des taux de succès autour de 32% avec le médicament contre 22% avec le placebo, ce qui se traduit par un nombre nécessaire de patients à traiter autour de 10. Puis quand je regarde le roflumilast, des taux de succès autour de 32% aussi avec le médicament contre 12 à 15%, là, je l'ai dit, il y a deux études par produit, là, fait que ça se promène un peu, pour un NNT qui allait à 6. Mais bref, un ordre de grandeur similaire, des produits en termes de tolérance. qui ont des particularités. Dans le cas du premier, du chrysaborole, il n'y a pas vraiment de surprise, là, tu sais, les classiques, la sensation de brûlure ou de picotement, là, des trucs cutanés. Par contre, dans le cas du roflumilast, si vous vous souvenez de l'épisode où on en a parlé, quand même un défi pour une crème, là. On a réussi à causer davantage de diarrhée qu'avec le placebo. Je trouve qu'il y a quelque chose quand même d'impressionnant là-dedans, là. Avec plus de diarrhée, des nausées, des céphalées. Bon, c'est pas des gros pourcentages, là, qu'on se comprenne bien, mais je trouve ça quand même impressionnant. Et devine quoi, Catherine? Plus de rhinopharyngite.
Yes.
Incroyable. Fait que là où le bât blesse pour ces deux produits-là, c'est à la même place. La première, c'est des études comparées à des placebos. Puis retenez les taux de succès que je vous ai donnés, là. 30% grosso modo. Puis là, je peux
C'est
pas
fort.
inventer de science, là, qu'on se comprenne bien, mais si on se remet un peu en tête les chiffres que Catherine nous a rapportés avec les corticostéroïdes topiques ou les inhibiteurs de calcineurine topique, on dirait que ça semble peu impressionnant, là. Puis je répète, j'ai pas de données comparatives, je suis pas capable de vous dire si c'est mieux, si c'est moins bon, si c'est ci, si c'est ça. Mais c'est le point problématique, c'est surtout qu'on n'a pas de données comparatives avec nos traitements habituels. Puis ça, je trouve ça vraiment plate, là. Parce que ça les rend très, très, très difficiles à positionner. Puis l'autre place où, évidemment, le bât blesse, ben, c'est le prix. Fait que dans le cas du chrysaborole, on parle d'environ 160 $ pour 60 grammes. Fait que quand même pas super plus cher que les inhibiteurs de calcineurine topique, mais clairement beaucoup plus cher que nos corticostéroïdes. Puis dans le cas du roflumilast topique, ben là, on booste un petit peu ça. On se range jusqu'à 300 $ pour des 60 grammes. Un rôle qui est encore difficile à définir à cause des études qu'on a. Puis un prix qui les rend d'autant plus là, moins intéressants. Fait qu'assez niché ici. Dans la catégorie exotique, sinon, Oli, on en a plein d'autres.
Ouais, là, ça devient encore plus exotique. Donc, deux autres crèmes. La première, c'est l'Opzelura, le ruxolitinib 1,5%. C'est un inhibiteur du JAK. C'est disponible dès l'âge de 2 ans pour les cas de dermatite atopique, légère à modérée, selon les lignes directrices américaines. En termes d'évidence, ça a été étudié à la fois chez les enfants, les ados, les adultes. Si on regarde les issues d'efficacité standard, là, on est à des taux de réponse autour de 50-65% avec le ruxolitinib comparativement au placebo pour un NT à 2. Donc, quand même une efficacité qui est intéressante. Par contre, ça n'a pas été comparé à des corticos, d'autres traitements actifs. C'est là que le bât blesse. En termes de tolérance, à première vue, ça semblait quand même bien toléré dans les études cliniques, sauf qu'il y avait un tout petit peu plus d'infections avec le ruxolitinib, là, dans l'étude exclusivement pédiatrique. Il y avait notamment un peu plus d'infections des voies respiratoires supérieures et de, devinez quoi?
Nasopharyngite.
Voilà. Donc, tu sais, dans les deux cas, pour des NNH d'environ 20. Donc, il y avait quand même une différence qui semblait aller pas dans le bon sens. À part de ça, la monographie émet aussi un avertissement pour les patients avec des antécédents d'infections graves, de caillots sanguins, de cancer, d'événements cardiovasculaires. C'est rare qu'on trouve un avertissement de ce genre-là dans une crème, dans une monographie.
Indiqué chez les enfants en basse âge. Ça fait
C'est
peur, on
ça,
va se
c'est
dire.
ça. Puis là, sachez-le, là, il y a pas d'études qui démontrent ce genre de risque-là avec la forme topique chez les enfants, mais avec les formulations Peros, il y a ce genre d'enjeu-là. Puis la biodisponibilité de cette crème-là est quand même de 10%. Donc, la monographie appelle à la prudence. Puis c'est d'ailleurs pour ça qu'on recommande de ne pas traiter plus de 20% de la surface corporelle avec ce produit-là pour limiter l'absorption systémique.
Quand même.
Sinon, au petit truc pratico-pratique, ça s'applique BID. Donc, ça peut être un frein à son utilisation optimale dans certains cas. Ça ne semble pas avoir énormément de science autour d'une prise intermittente. Donc, ça, c'est un autre petit point pour la prise chronique. Puis à part de ça, le prix, on parle d'environ 1 000 $ par tube de 100 grammes.
C'est étonnant qu'il ait fait quand même des gros tubes. Il me semble, moi, j'aurais fait vraiment des petits, 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 petits tubes. Ça paraît moins cher.
En effet, surtout qu'il
Ça
y a une
dure 2 semaines.
limitation au niveau de la quantité qu'on peut utiliser, là.
Ouais, bien évidemment, la monographie nous met des recommandations de tubes et de grammes à renouveler ou à ne pas dépasser. Deuxième crème exotique, le N-Duvra, le Tapinarof 1%. C'est un agoniste du récepteur des hydrocarbures arylique.
Les récepteurs des hydrocarbures?
Arylique. Pas acrylique, évidemment.
Évidemment. Ceux-là, tout le monde sait que c'est pas des récepteurs, là, tu sais.
Mais je savais pas qu'on avait des récepteurs aux hydrocarbures.
Ben, moi aussi, ça me laisse perplexe, les récepteurs aux hydrocarbures.
Hey, moi, j'ai fait un copier-coller de la monographie, là. Donc voilà, c'est une option disponible dès l'âge de 2 ans pour la dermatite atopique, sans critère de sévérité précis dans la majorité des guides de pratique. En termes d'évidence, je pense que c'est important de préciser que le tapinarof a été étudié pour des cas d'eczéma modéré à sévère dans les études randomisées contrôlées. On excluait typiquement les cas légers de ces études-là. Quand on regarde les taux de réponse, on est environ avec les mêmes chiffres, là, 50-60 % NNT à 3 contre placebo, ça revient pas mal à ce qu'on jasait précédemment. Par contre, ça n'a pas été étudié encore une fois contre cortico, d'autres traitements actifs. En termes d'effets indésirables, ça semble quand même bien toléré comme produit, sauf pour un effet secondaire en particulier. Là, dans les études d'eczéma, il y avait 9-10 % de réactions folliculaires avec le tapinarof contre 1 % avec le véhicule inactif, ce qui donne un NNH de 14. Puis là, on parlait précisément de folliculite, mais aussi d'eczéma folliculaire et de bouchons folliculaires de type kératose pilaire. Donc, il y a un NNH à 14 quand même dans les études d'eczéma. Puis dans les études de psoriasis, il y avait même une prévalence jusqu'à 20 % avec le tapinarof, là. Donc, ça semble clairement causer cet effet secondaire-là. Puis, à part de tout ça, je dirais que ça s'utilise DIÉ. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Il n'y a pas d'enjeu de biodisponibilité élevé ici ou d'innocuité avec un agent perrosse de la même famille. Donc, c'est probablement pas mal plus sécuritaire que notre inhibiteur du JAK pour une application un petit peu plus libérale ou étendue. Puis sinon, en termes de prix, on parle d'environ 450 $ pour un tube de 60 grammes. C'est pas couvert par la RAMQ. Donc voilà, ça existe, mais on dirait je sais toujours pas à qui je pourrais prescrire ou recommander ça, mais bon.
Oui, c'est ce que j'allais dire, hein. C'est dur de leur trouver une place dans l'arsenal thérapeutique. Les corticostéroïdes topiques ne sont pas avides de se faire déclasser, là.
Je pense qu'on n'en est pas là. OK, fait que ça, je pense que ça fait le tour pour les crèmes. Puis là, évidemment, c'est pas terminé. Parce qu'après ça, on a les affaires soit en
En
injection
injection, en
ou par la bouche,
comprimé.
voilà. Fait que ça aussi, il y en a plusieurs, hein, mine de rien.
Oui. Fait tu sais, deux grandes classes là, de thérapie systémique novatrice, je vais dire. Fait qu'il y a les anticorps monoclonaux, puis les inhibiteurs de JAK dont Oli a parlé, topiques, mais on les a en systémique aussi. Fait que les anticorps monoclonaux, fait que c'est des biologiques là, humains qui, encore une fois, là, inhibent la signalisation des interleukines associées à l'inflammation de la dermatite atopique. C'est toujours un petit peu la même patente. Ils ont aussi un effet anti-inflammatoire antipruritique, mais le but thérapeutique, surtout avec le dupilumab, là, on va y revenir, mais qui est celui souvent le plus utilisé, je pense, c'est que le but thérapeutique qu'on vise à long terme, c'est la restauration de la barrière cutanée. Fait qu'on a un peu comme un espoir, en tout cas, c'est comme ça qu'on nous le vend, là, que ça, t'sais, pendant qu'on le prend, c'est comme si on n'avait plus de dermatite atopique. Là, on guérit un peu, si vous voulez, là, comme le but ultime, ça serait de plus avoir de lésions ou de poussées d'épisodes aigus, finalement.
Mais en même temps, le but ultime, c'est pas de te débarrasser du médicament.
Non, mais c'est un peu la promesse qu'ils nous donnent. Ce que les lignes directrices nous disent, fait que ça ressemble pas mal là, dans les deux cas. Là, t'sais, les lignes directrices pédiatriques disent qu'on peut les considérer pour des patients qui n'arrivent pas à prendre le contrôle de leur dermatite atopique, soit avec un traitement topique optimal. Et vous pouvez en faire la définition que vous voulez, là. Ou qui ont une maladie plus sévère, plus étendue, ou qui ont une qualité de vie diminuée. Fait que c'est une phrase un peu très large là, pour dire si vous avez essayé plein de choses topiques et ça fonctionne pas, ben voici une des options que vous pouvez avoir. Il existe quatre agents biologiques là, qu'on peut utiliser dans la dermatite atopique. Il y a le dupilumab, il y a le tralokinumab, il y a le lebrizicumab et le nemolizumab. Je suis tellement contente de bien les avoir dit du premier coup. Encore une fois, là, le plus, je trouve que les meilleures évidences qu'on a, le plus étudié, le plus utilisé, c'est le dupilumab ou le Dupixent. Il y aura un effet anti-inflammatoire plus large là, parce qu'il inhibe deux cytokines. Fait que j'ai décidé de vous présenter les évidences de celui-là, puis les autres, c'est, vous allez voir, ils sont pas mal étudiés tous de la même façon. Fait que dupilumab, on a quand même trois essais randomisés, contrôlés, pédiatriques, là, spécifiques. À double aveugle contre placebo. Ça englobe à peu près là, 800 patients. On l'étudie chez les 6 mois à 17 ans, donc un grand intervalle d'âge qu'on peut l'utiliser. Fait que c'est pas mal toujours la même chose. Là. Fait qu'on le donne pendant 16 semaines. On compare le dupilumab au placebo. Des fois, on fait deux bras dupilumab parce qu'on compare deux fréquences d'administration, là, fait qu'aux 2 semaines ou aux 4 semaines. Puis à 16 semaines, on regarde qui a répondu puis qui a pas répondu. La réponse étant, là, ça ressemble beaucoup là, à toutes les issues primaires qu'on voyait dans quand on étudiait les crèmes, là, fait que les IGA entre 0 et 1, fait que les patients qui ont une résolution complète ou presque complète de leur dermatite atopique. Fait que ce que ça nous donne, là, si on poule les résultats ensemble, sachez aussi qu'en termes de thérapie concomitante, il y a certaines études qui permettaient d'avoir des corticostéroïdes topiques concomitants, d'autres non, mais tout le monde avait le droit à une thérapie de secours. C'est pour ça que les ordres de grandeur diffèrent un peu, là, parce qu'évidemment, vous comprendrez que dans les études qui permettaient les corticostéroïdes topiques concomitants, ben, on avait des taux de réponse supérieurs, mais les différences de traitement étaient équivalentes parce qu'évidemment, on pouvait les utiliser autant dans le bras placebo que dans le bras traitement. Fait que la proportion de patients qui avaient une résolution complète ou presque complète, on avait entre 20 et 30 % des patients dans les groupes dupilumab versus entre 2 et 11 % dans les groupes placebo pour des NNT entre 4 et 6. Puis si on regardait la proportion de patients qui avaient au moins 75 % de leur amélioration sur un score EASI, on avait entre 40 et 70 % des patients dans le groupe traitement, puis entre, je veux dire, le 10 et 30 % pour faire des chiffres ronds dans le groupe placebo pour des NNT entre 2 et 3. Les autres issues là, secondaires qui ont été mesurées, comme par exemple prurite, trouble du sommeil, qualité de vie, c'était aussi une supériorité au niveau du dupilumab. Au niveau des effets indésirables, on ira plus en détail tantôt, là, mais tu sais, il y avait peu de pertes au suivi dans les groupes traitement. L'incidence globale d'effets indésirables était similaire entre les groupes. La chose qui ressort dans ces études-là, c'est les taux de conjonctivite. Fait que dans le dupilumab, groupe dupilumab, il y avait 2 fois plus de conjonctivite. Fait qu'on avait 10 % versus 5 %. Mais on y reviendra, c'est quand même un effet indésirable connu, là, du médicament.
Quand même niché. Je connais pas beaucoup de médicaments, il me semble, là, qui ont dans les effets indésirables spécifiques la conjonctivite.
Oui, mais ils ont même fait un nom, là. C'est comme la conjonctivite associée au dupilumab. Il y a comme un petit terme juste à lui. Mais oui, c'est très niche, en effet.
Puis la nasopharyngite, elle.
Ben, ça ressortait pas, je l'ai pas noté. Fait que voilà. Fait que
Ça
si vous voulez
montait
éviter les
direct dans les yeux.
nasopharyngites, optez pour un agent biologique. C'est ça le message. Fait que tu sais, comme je vous dis, là, les autres études, autant si on regarde le tralokinumab que le lebrikizumab, on a aussi des essais randomisés contrôlés pédiatriques ou de la population mixte qui incluait des enfants, mais 12 ans et plus seulement. Fait que seulement chez les adolescents pour ces deux molécules-là. Encore une fois, on les regardait pendant 16 semaines. Le groupe traitement, là, fait que le biologique était toujours supérieur au placebo. Ce qui était un peu intéressant dans le tralokinumab, là, si on veut vraiment aller dans le niche, là, c'est que pour répondre au traitement, fait que dans le fond, on pourra dire qu'on avait une résolution complète ou presque complète de nos symptômes, on n'avait pas le droit d'avoir recours à un traitement de secours. Fait que je trouvais ça quand même intéressant là, de vous donner les chiffres que ça l'avait donné. Fait qu'il y a quand même un 20 % des patients dans le groupe tralokinumab qui avaient une réponse au traitement. Donc, à 16 semaines, il y avait un eczéma, un dermatite atopique, pardon, résolu ou presque résolu sans avoir recours à un traitement de secours versus 4 % dans le groupe placebo. C'est ce qui distinguait un peu les études de cet agent-là. Le nemolizumab, de par son effet, de son mécanisme d'action, pardon, agirait seulement sur le prurite. Fait que là, t'sais, autant dans les autres études des biologiques, là, les populations qui étaient incluses, c'était les dermatites modérées à sévères. Ici, c'était la quantification du prurite qui était un critère d'inclusion. Fait qu'il fallait qu'il y ait du prurite modéré à sévère. Fait que quand on regardait les scores là, autant d'amélioration de la dermatite atopique que de prurite, ben encore une fois là, le nemolizumab était supérieur au placebo, mais les NNT un peu plus élevés peut-être. Encore une fois, on n'a pas de comparatif, mais on avait des NNT autour de 8-9. Mais on avait des effets très très rapides dès le jour 2, apparemment, on avait une amélioration au niveau du prurite.
Peut-être, on n'a pas mis beaucoup l'emphase là-dessus, là, sur les autres traitements, mais il y a quand même des données pour à peu près, ben, je ne sais pas, là, j'ai goût de dire tous les traitements dont on a jasé, qui suggèrent un effet sur le prurite aussi.
Oui, en effet, en effet. C'est juste que le nemolizumab, parce que son mécanisme d'action est spécifique sur le prurite, ils se sont vraiment. Il y a certaines études qui regardaient leur issue primaire, c'était l'amélioration du score de prurite.
Non, je comprends, juste pas que les gens s'imaginent que s'il y a prurite, ce n'est que le traitement
En effet, en effet.
là, de
Tu fais
choix,
bien
là.
de préciser. C'est vrai que peut-être mon message était mal, mais oui, tous les agents biologiques aident avec le prurite, en effet, la qualité du sommeil puis la qualité de vie. Fait qu'en pratique, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Fait que juste vous souvenez que c'est une administration sous-cutanée, hein, qui n'est pas absolument la voie d'administration préférée des petites personnes. Ça s'injecte aux 2 à 4 semaines selon l'agent. Sachez là, que dans la plupart des cas, qu'on le donne aux 2 ou aux 4 semaines, il n'y avait pas nécessairement une efficacité augmentée là, avec le aux 2 semaines versus 4 semaines. L'efficacité était rapide, pas mal dans tous les cas. On a une pleine efficacité jusqu'à 16 semaines. Puis les lignes directrices recommandent qu'une fois qu'on a obtenu le contrôle pendant au moins 6 mois, fait que ça veut dire qu'on n'a pas de lésion active, là, dans le fond, dans les jours avant que notre dose ait dû, on pourrait considérer diminuer la fréquence des injections. Fait que, par exemple, si vous êtes aux 2 semaines, vous pourriez passer aux 4 semaines. Mais il dit que souvent, le contrôle était rarement maintenu quand on dépassait le aux 4 semaines. Fait que c'est peut-être un essai qu'on peut essayer de faire, mais c'était comme un peu une mise en garde, là, les études tendent à suggérer que peut-être qu'on perdrait le contrôle quand on dépasse la fréquence aux 4 semaines.
Là, ben, au-delà de tout ça, on imagine que c'est abordable.
Oui, évidemment. Très, très abordable, dépendamment du revenu familial que vous avez, j'imagine. On a quand même de la couverture à la RAMQ, mais sous médicaments d'exception. Fait que autant le dupilumab que le lebrikizumab sont des médicaments d'exception chez les 12 ans et plus seulement. Les critères, c'était d'avoir essayé au moins 2 corticostéroïdes topiques de puissance là, moyenne à élevée et un ICT et de la photothérapie pour au moins 30 séances pendant 3 mois. Ou ne pas avoir accès à de la photothérapie. Mais ceci dit, si vous avez accès, fait que le dupilumab, 2 stylos, fait que dans le fond, mettons pour soit 1 ou 2 mois de traitement, là, dépendant de la fréquence à laquelle vous l'utilisez, 1 876 $, exactement le même prix pour le lebrikizumab, mais juste pour 1 stylo. Fait que même prix, mais 2 fois moins de produits. Fait que tu sais, rapidement, là, place dans la thérapie, encore une fois, tu sais, oui, c'est efficace, oui, ça a été étudié en pédiatrie. Considérez-le pour vos dermatites atopiques modérées à sévères. Dupilumab a d'autres indications aussi, là, par exemple en asthme, en polypes nasaux. J'avoue que je ne connais pas nécessairement les évidences, là, mais il peut peut-être avoir des avantages collatéraux à aller chercher de ce côté-là. Mais sinon, voilà.
Ben, tu sais, je pense qu'il faut le dire quand même, l'arrivée du dupilumab, il y a déjà un petit bout, là, je sais pas,
Oui.
pour faire 10 ans, peut-être, quelque chose comme
À peu
ça.
près, oui.
Ça a quand même été, ma foi, une avancée thérapeutique significative, parce qu'il y a quand même un paquet de patients qu'on sait, puis tu sais, les données l'ont montré avec ce qu'on a décrit déjà. Les traitements topiques ont leurs limites. Puis là, bon, je pense que tu nous as gardé une mini-section à la fin sur les immunosuppresseurs de la vieille école.
Autrefois utilisé,
Ben,
oui.
c'est ça, tu sais, mais ils viennent avec, on le sait, là, un paquet d'enjeux. Fait il y a quand même quoi de très intéressant dans l'arrivée de ces différents produits-là dans le traitement de la dermatite atopique, là. Au-delà que,
Oui,
bon,
oui.
ils coûtent cher, là, comme n'importe quelle de ces
Ouais.
affaires-là, mais.
Fait que je pense clairement que ça place dans la thérapie, mais tu sais, c'est pour une certaine clientèle qui correspond à certains critères, là. C'est pas une première ligne de traitement, bien entendu.
Parfait.
Notre autre et dernière thérapie systémique, vous avez dit ça comment tantôt, là, novatrice.
Exotique.
Exotique, c'est le mot que vous avez dit. Fait que les inhibiteurs de JAK, mais systémiques. Fait que ça inhibe le Janus kinase. Je sais toujours pas ce que ça fait, mais ça fait à peu près la même patente que la crème topique. Puis ça va bloquer là, les cytokines qui sont impliquées dans les voies inflammatoires. Ça aussi, il y en a une couple là. On a le upadacitinib, l'abrocitinib et le baricitinib. Fait que ce qu'on appelle les tinibes, hein. Fait que celui, encore une fois, là, dont je vous présente les résultats, c'est l'upadacitinib, qui est celui qu'on a les meilleures données là, en pédiatrie. 3 essais randomisés contrôlés qui incluaient des patients pédiatriques qui ont été tous publiés en 2021. Fait que vous voyez, c'est relativement récent là, comme thérapie. On a à peu près là, entre 800 et 900 patients par étude, mais c'était des populations mixtes. Là, fait qu'on a comme à peu près autour de 500 adolescents en tout d'impliqués dans ces études-là. Fait que c'est pas mal la même chose. Là, on leur donne pendant 16 semaines. On le compare à du placebo. Puis on a habituellement 2 bras de traitement. Ici, on compare des doses différentes parce que c'est des agents par la bouche qu'on donne à tous les jours. Les résultats qu'on a pour l'upadacitinib, fait qu'ici aussi, là, on regardait évidemment là, fait que les patients qui avaient des résolutions complètes ou presque complètes à 16 semaines. Pour le groupe de la plus faible dose, là, 15 mg, on avait à peu près 40 à 50 % des patients qui répondaient. Dans la dose plus élevée de 30 mg, on avait 60 à 75 %. Et le groupe placebo, on avait 3 à 11 % de patients. Fait qu'on avait des NNT de, mettons, 2 pour la dose plus élevée, puis entre 3 et 4 pour la dose, t'sais, plus faible, je vais vous dire, là, de 15 mg. Puis pas mal les mêmes NNT quand on regardait, là, quand on mesurait le EASI 75, donc les patients qui avaient au moins 75 % d'amélioration de leurs symptômes. Ça, c'était pour l'efficacité. L'innocuité, c'est peut-être ici là, que le bas blesse, pour reprendre vos expressions. Fait que c'est vraiment pas les thérapies qui sont les mieux tolérées. Il y a quand même plusieurs effets secondaires. Évidemment, la plupart des essais randomisés contrôlés incluaient de la population adulte aussi. Il y a des choses qui nous inquiètent moins en pédiatrie, mais bon, les données sont quand même là. Je pense que c'est important de les partager. Fait que si on regarde juste de façon générale, là, effets indésirables reliés au traitement, fait qu'on avait à peu près entre 23 et 37 % dans le groupe UPA versus placebo. L'acné est quelque chose qui ressort de plus fréquent là, dans le groupe des TNIM. C'est vrai pour toutes les classes, là, je vais vous dire. Fait qu'on a un 10 à 17 % dans les groupes traitement versus 2 à 3 % dans le groupe placebo. Puis ça se poursuit dans le temps. Là, les données, c'est souvent, là, t'sais, après ça, les études continuent dans les bras ouverts, là, mais on se rend compte que l'acné, c'est quand même quelque chose qui perdure dans le temps. On a des céphalées, on a l'élévation des CK, de la neutropénie qui serait aussi dose dépendant. Et certains risques d'infection. Fait que, tu sais, les nombres sont pas immenses, là, mais c'est quand même rapporté, là. Pour le zona, on a par exemple 3 cas dans les groupes de traitement versus aucun dans le groupe placebo. De la nasopharyngite, 14 % dans le groupe traitement versus 2. Mais il n'y avait pas nécessairement d'infection grave de rapporter. Puis, un peu comme Olien avait parlé, tu sais, même quand on est dans le monde, là, systémique, là, des inhibiteurs de JAK, on n'avait pas de cas de MACE, de cariosanguin, sanguin, d'événements cardiovasculaires, de cancer, d'infection opportuniste. Toutes des choses qui nous auraient un peu inquiétés chez les enfants, là, je vous avoue. Chez les adultes, je ne sais pas quel type d'incidence vous tolérez, mais chez les enfants, ça aurait été pas mal zéro, là. Si on avait des cas de MACE chez des adolescents, ça nous aurait pas tellement plu, je vous dirais.
Surtout pour la dermatite atopique, pour laquelle on a plusieurs autres options.
Je comprends. Fait qu'encore une fois, là, les autres molécules, là, je les passe pas en revue, là, c'était vraiment les mêmes types de méthodologie, là, 16 semaines. On avait comme du 300 à 400 patients par étude. La brocitinib, c'était seulement chez les adolescents. Le baricitinib, c'était chez les 2 ans et plus seulement. Dans les deux cas, on était supérieur au placebo. Notez que pour le baricitinib, il y avait seulement une dose qui était supérieure au placebo, là. Il regardait du 1, du 2 puis du 4 mg. Il y avait seulement le 4 mg qui était plus efficace. Puis sinon, dans, t'sais, un ordre de grandeur, là, la brocitinib, on était dans les ordres de NNT de 5 pour une dose de 200 mg versus NNT 6 pour une dose de 100 mg. Toujours les mêmes issues mesurées, l'IGA à 0 ou 1. Puis pour le baricitinib, on était plus autour du NNT de 8.
Pas mal tout dans le même ordre de grandeur.
Oui, puis innocuité, c'est vraiment des effets secondaires de classe, là. Tout ce qui est neutropénie, ça revenait, l'élévation des CK aussi, l'acné, c'est assez généralisable, je vous dirais, entre les classes.
Et j'imagine qu'il y a ceux-là au moins qui sont pas chers.
Exactement, hein? On aurait tendance à dire, ben non. Encore une fois, là, fait qu'il y a médicaments d'exception à la RAMQ chez les 12 ans et plus pour l'ubadacitinib. Ça coûte entre 1385 et 2850 $ pour 30 comprimés. Puis la brocitinib, c'était 1460 $ pour 30 comprimés. Puis le baricitinib, on est dans les mêmes eaux, 1 400 $ pour 30 comprimés. Mais le baricitinib n'est pas sur la liste des médicaments RAMQ, puis aucune évaluation n'a faite à l'INES non plus.
C'est coûteux, tout ça.
C'est très coûteux.
Bon, fait que ça fait le tour des nouvelles affaires. Sinon, on voulait mettre un petit mot sur les vieilles affaires aussi.
Oui, bien initialement, je ne voulais pas parler des vieilles affaires, mais finalement, je me suis dit, ben, les nouvelles affaires coûtent tellement cher qu'on peut peut-être juste rappeler qu'avant que les affaires qui coûtent cher, il y avait des vieilles affaires. Fait qu'avant, quand on était rendu dans le monde du systémique, on avait comme des immunosuppresseurs, là, le méthotrexate était celui qui était le plus étudié, pas étudié, mais le plus utilisé en pratique. On a quand même l'efficacité, là, d'un essai randomisé contrôlé en dermatite atopique chez les patients de 8 à 14 ans. Le MMF, on n'a pas d'évidence pédiatrique. Je ne sais pas si c'est utilisé chez les adultes, mais pas chez nous. Sinon, on a de l'azathioprine, de la cyclosporine. Puis peut-être la chose que je voulais mentionner, c'est les corticostéroïdes systémiques. Fait que des fois, on a comme l'impression que ça fait encore partie des options qu'on aurait peut-être, là. Si le topique fonctionne pas, on va juste leur donner par la bouche, puis là, ça va miraculeusement bien fonctionner. Fait que, tu sais, les lignes directrices sont assez affirmatives sur le fait qu'ils recommandent contre leur utilisation à long terme. Les données d'efficacité sont incertaines, mais les données d'innocuité non favorables sont très certaines. Fait qu'on est sûr que ça fait des effets secondaires, puis on n'est pas sûr que ça fonctionne. Ils leur trouvent peut-être une petite place dans la thérapie, là, si vous voulez les utiliser comme pont thérapeutique, là, t'sais, par exemple, pour soulager certains symptômes en attendant d'initier une autre thérapie systémique, par exemple, ou peut-être en attendant le remboursement de la RAMQ, par exemple. Mais bref, j'aimerais qu'on s'enlève l'idée que ça fait encore partie de notre arsenal thérapeutique. C'est pas parce que le topique fonctionne pas qu'on va aller vers le systémique, au niveau du corticostéroïde, bien entendu. On a vraiment d'autres options mieux tolérées et plus efficaces.
Mais je suis capable d'imaginer que pour un patient qui a une surface corporelle atteinte faramineuse pour une courte, courte période, parce qu'il y a un plan qu'on est en train d'établir, ça peut être plus simple là, aussi, là.
Oui, absolument. Mais c'est vraiment dans le, c'est ça, le domaine de, pour une courte durée.
Parfait. Y avait-tu d'autres choses qu'on n'a pas abordées, qu'on voulait aborder? Comment ça va faire le tour?
Des fois, on a beaucoup de questions chez la dermatite atopique chez les plus petits, là, fait que chez les moins que 2 ans.
Bon, si on fait le tour, là, les corticostéroïdes topiques, je pense que ça va. Je pense pas
Oui,
que
ça
personne
va.
considère qu'il y a un âge minimal. Par contre, les limus, c'est quelque chose, moi, j'ai vu beaucoup, beaucoup de questionnements là-dessus au fil des années.
Oui, fait qu'on a encore peur, là. Je pense que, tu sais, principalement parce que la FDA disait que qu'ils recommandaient seulement à partir de 2 ans. Mais je vous rappelle que les lignes directrices pédiatriques sont assez confortables de les recommander sans aucune limite d'âge. Puis ils disent qu'on a de la donnée, là, bon, non contrôlée puis peut-être observationnelle, mais on a quand même les données, tu sais, de sécurité. En tout cas, on a une absence de signal de problème quand on l'utilise chez les moins de 2 ans.
Puis sinon, ben, pour les trucs plus exotiques.
Fait que le dupilumab, à partir de 6 mois, on a des données. Puis sinon, dans les. Il y en a un autre, là, aussi, qui était utilisé chez les plus jeunes, là, le premier que je lui ai parlé, le upadacitinib. Mais, tu sais, sinon, principalement, tu sais, souvenez-vous, là, Amélie en avait parlé lors du premier épisode, qu'il y avait quand même une différence au niveau de leur présentation clinique, surtout la répartition de leurs lésions. Mais ça fait pas en sorte qu'on va nécessairement les traiter de façon différente. Un petit rappel aussi là qu'on avait dit, on a toujours peur là, de leur appliquer des corticostéroïdes topiques parce qu'ils sont plus à risque. Fait que oui, tu sais, il y a plein de théories, pas de théories, mais de principes théoriques qui font en sorte qu'ils pourraient être plus à risque, mais on n'a pas de données que si on l'utilise de façon adéquate, les corticostéroïdes topiques, ils sont plus à risque d'avoir des effets indésirables systémiques. Fait que bref, tu sais, c'est en 2 secondes là, pour dire qu'on ne devrait pas traiter nécessairement un enfant de moins de 2 ans de façon différente qu'un enfant plus vieux, là.
Ça me semble raisonnable. C'est autre chose qu'on voulait aborder? On n'a pas parlé du wet wrapping, de l'enveloppe mouillée.
Moi, c'est pas ma technique préférée, mais.
Ben, moi non plus, mais je me suis quand même posé la question, voir s'il y avait de la science derrière cette idée-là. Fait que là, tout le monde sait de quoi on parle, j'imagine, là, l'idée de. Un peu compliqué quand même, là. Fait que là, typiquement, bon, la personne va prendre son bain ou sa douche. Là, elle va utiliser la technique là, du bain pas trop chaud, pas trop long. Là, rapidement, elle va se crémer pour enfermer toute l'humidité à l'intérieur. Puis là, il y aurait l'idée de rajouter de l'occlusion mouillée là-dessus. Fait que de prendre du tissu que tu mouillerais, t'appliques ça. Puis là, par-dessus, tu mets un truc sec parce qu'à un moment donné aussi, en tout cas, il y a comme des enjeux, là. Puis là, de laisser ça sur ton corps là, pendant des bonnes périodes. C'est un concept, moi, que j'ai entendu à plusieurs reprises. Fait que je me suis dit, ben, on doit avoir des études là-dessus, tu sais, ça a dû être démontré efficace. Donner tout ce trouble-là, Seigneur, ça a bien dû démontrer quelque chose. Pas tellement, hein? Fait que ce que je comprends, c'est que c'est un concept qui a été popularisé dans les années 90, notamment au Royaume-Uni. Puis là, ben, à un moment donné, dans les années 2000, quelqu'un qui s'est dit, ben, il faudrait peut-être qu'on essaye de l'étudier, cette affaire-là. Fait qu'il y a une étude pilote qui a été faite en 2004 chez 19 enfants qui ont été randomisés à la technique de l'enveloppe mouillée ou pas. C'est ma traduction libre, évidemment. Puis ben, ça n'a pas changé grand-chose, finalement. Puis pas juste parce qu'il y avait juste 19 enfants, puis là, il y avait des intervalles de confiance trop grands. Là, quand tu regardes les chiffres d'amélioration de symptômes, ça n'a pas l'air d'améliorer quoi que ce soit. Puis en 2006, il y a des gens qui ont fait une étude un petit peu plus grosse, 50 enfants de 4 à 27 mois avec une dermatite atopique modérée à sévère qui ont été randomisés à l'enveloppe mouillée ou pas. Puis, encore une fois, ça n'a rien changé entre les deux groupes. Les deux groupes se sont bien améliorés, là. Les deux groupes étaient traités, là, avec des crèmes puis tout ça. Par contre, plus d'infections dans le groupe enveloppe mouillée, puis plus de troubles rapportés aussi. Parce que on parle d'enfants de 4 à 27 mois ici. Dis-moi, mes enfants sont plus vieux que ça, puis j'ai encore de la misère à les faire souper, là. Fait que me semble que.
Rapidement, ça semble diminuer la qualité de vie des gens, là, puis pas nécessairement celui qui est enveloppé dans du mouillé.
C'est plus large que ça, là. Bref, bien décevant finalement comme science. Il y a des gens qui ont des connaissances d'études là, autres, mieux faites. J'ai pas trouvé d'autres choses. En tout cas, j'ai pas trouvé rien qui justifierait vraiment là, dans une balance avantage-inconvénient.
Ça coûte pas cher.
Ouais,
Mais
mais.
désavantage, c'est une torture pour les parents, je veux dire.
Fait que ça pour dire que s'il y en a qui se disent hey, peut-être que je conseille pas assez d'enveloppes mouillées ou j'en parle pas assez aux patients, puis tout ça, je
C'est correct.
pense que c'est raisonnable. Autre chose qu'on voulait mentionner en parlant de dermatite atopique?
Alors, moi, je pense qu'on devrait conclure sur les enveloppes mouillées, là.
C'est un bon mot de la
Ça va
fin.
être difficile à battre.
Bon, ben merci Catherine.
Et ça m'a fait plaisir.
Les gens ne le savent pas, mais ça a été un épisode quand même un petit peu complexe. Un, t'as
Mouvementé, hein? Oui.
manqué d'électricité dans le processus.
Voilà, les périodes plus silencieuses, j'avais des enjeux de connexion.
Il y a un petit bout qui s'est fait sur téléphone. Fait qu'il y a deux, trois petits morceaux qui vont sonner un peu cacane, là. Mais bon, hein, on fait ce qu'on peut avec la météo qu'on a.
Voilà.
Autrement, un petit mot de la fin, c'est des questions, des plaintes, des critiques, des commentaires. Toujours écrire à Oli.
Je vous lis assidûment.
Bon, ben, on s'en parle bientôt.
Bye!
Ciao, ciao!
Ciao!
L'information contenue dans cette balado-diffusion est à titre indicatif seulement et ne remplace en rien l'avis ou le jugement d'un professionnel.